J'ai bien entendu, en fait. Ce que j'ai à partager, c'est vraiment ce que Dieu veut dire. Donc, je veux vous encourager parce que ça veut dire que Dieu a préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Je veux vous parler de l'amour, de l'humilité et pourquoi on doit apprendre à faire des feux. D'accord? Ça, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Mais d'abord, je veux vous parler de la ville d'Éphèse, parce que c'est important de connaître le contexte pour ce qu'on va entendre ensuite. Éphèse, la ville d'Éphèse, c'était la grande ville commerciale de l'Asie mineure. Asie mineure, c'est l'ouest de Turquie, de la Turquie aujourd'hui. Donc, mais c'était là, c'était le the city, si vous voulez, de ce domaine-là. Et c'était connu aussi pour ses jeux. Il y avait des jeux qui étaient un peu comme les Jeux olympiques, mais c'était les Jeux d'Éphèse. Il y avait un grand amphithéâtre. On peut lire de ça en acte 19. Il y avait l'amphithéâtre. Donc, c'était une ville de spectacles et de compétitions et de tout ce qui était un peu bling-bling. Ça se passait là. Et c'était aussi le centre du culte de la déesse d'Artémis, Diana. C'était... merci. Et donc, c'était un temple franchement un peu insalubre parce que les prêtresses d'Artémis, c'était les prostituées et le culte tournait autour des orgies. Donc, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et c'était le centre financier de la région parce que, bizarrement, le temple d'Artémis, c'était aussi la banque, la plus grande banque d'Asie mineure. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les criminels pouvaient chercher refuge dans le temple, ce qui a fait que le temple est devenu le centre du grand banditisme. Parce que quand vous avez des criminels qui ont pris refuge dans une banque, vous pouvez imaginer, ça a créé des relations intéressantes. Et en couche finale, parce qu'il y a une couche finale, c'était la ville en général, c'était un centre renommé pour la magie, pour l'occultisme. Et il y avait des personnes qui investissaient des fortunes dans tout ce qui était articles et accessoires de magie. Et vous pouvez imaginer l'atmosphère spirituelle de cette ville avec tout ça. Il y avait un philosophe qui venait d'Éphèse, il s'appelait Héraclite d'Éphèse. Et je veux juste vous dire ce que lui, il a dit sur sa propre ville. Alors lui, il n'était pas du tout croyant, c'était avant Jésus. Mais déjà, depuis quelques années, on voit un peu le caractère de la ville d'Éphèse. Ce qu'il disait, je vais vous lire, « Les mœurs du temple étaient pires que celles des animaux, car même les chiens ne se mutilent pas. Les gens là-bas n'étaient bons que pour se noyer. J'étais incapable de rire ou sourire car je vivais au milieu d'une telle pourriture. » Alors ça, c'est ce que Héraclite a dit de sa propre ville. Et c'est parfois quand on lit les livres dans la Bible comme le livre d'Éphésiens, on n'a pas du tout ce contexte en tête. Mais ça, c'est le contexte où Dieu a décidé de faire grâce. Ça, c'était l'ambiance de la ville où Dieu a dit à un moment donné, il est temps, il est temps. Et donc, à peu près 20 ans après la résurrection de Jésus, Dieu, il envoie les poids lourds de l'évangile. Il envoie Paul. Il envoie Apollos, il envoie Priscille, il envoie Aquilas, il envoie Timothée, il envoie Tychique, et puis probablement beaucoup d'autres aussi. Et ils sont partis là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont partis là-bas pour libérer, pour délivrer, pour guérir, pour enseigner, pour encadrer, pour encourager. Une église démarre dans ce lieu très, très improbable, très peu accueillant. On pourrait imaginer à la base que c'était un contexte très difficile pour implanter une église. Mais cette église a pris racine Et la ville d'Éphèse, en termes d'église, est devenue une lumière pour les autres villes qui étaient autour. Parce que sur la route commerciale, il y avait beaucoup d'autres villes. Et ça a tellement bien pris qu'ensuite, il y a la persécution. Parce que souvent, quand tout va bien et ça commence vraiment à démarrer, vient la persécution parce que l'ennemi se sent menacé. Quelque part, c'est une réaction normale de sa part. Et donc, on peut lire un peu les débuts de cette persécution dans ce qui se passe en Acte 19. Mais quelques années après son séjour là-bas, Paul, il écrit une lettre aux Éphésiens. Il écrit aussi à Timothée. Donc, le premier livre de Timothée, c'est écrit à Timothée qui était en Éphèse. Donc, on voit dans le Nouveau Testament, Dieu, il a beaucoup investi dans cette ville. Et finalement, une bonne vingtaine d'années encore plus tard, Jésus envoie une lettre à son église. Et cette lettre s'est transmise par Jean. Et on trouve ça en Apocalypse. Et nous avons déjà entendu des enseignements assez récemment sur le passage qu'on va vous lire. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas répéter la même chose, mais je veux partager avec vous de manière très concrète mon vécu de la réalité de ce passage. Et j'espère que ça va vous encourager dans votre cheminement avec le Seigneur. Donc on va lire en Apocalypse 2, verset 1. Et on lit à l'ange, ou on peut comprendre aussi au messager de l'Église qui est à Éphèse. Écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Donc ce message pour les Éphésiens, tout comme l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est aussi un message pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans le passé qui n'a plus d'intérêt pour nous. Alors d'abord, Jésus voit une Église qui travaille dur. Et il approuve. Quand on voit le verset 2, « Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. » Ce mot « peine-là », c'est le mot « kopos dans le grec. Et ça veut dire un travail dans la douleur. Voilà, vous avez sué pour avancer. Ça vous a coûté pour avancer. Donc, c'est un travail dans la peine. Pardon, la peine. Et Jésus a vu la peine. Et il a vu qu'il y a une persévérance. On ne lâche pas. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Alors, quand Paul a écrit à Timothée dans sa lettre aux Éphésiens, nous découvrons que Paul lui a confié une mission importante en Éphèse. Il devait veiller sur l'enseignement. Et il devait veiller sur la mise en place des leaders pour vérifier qu'il n'y avait pas de dérive dans ce qui était enseigné. Et apparemment, il a fait du bon travail avec d'autres. Parce que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est bravo. Voilà, t'as bien fait. Vous avez discerné les choses, vous avez testé. Et donc, ils ont entendu ce que Paul a dit à ce moment-là, et Jésus dit, bravo, vous avez écouté, et vous avez fait. Et puis on trouve dans le verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. On a déjà vu le début des persécutions qui ont commencé. Jésus reconnaît qu'ils ont tenu bon sous la persécution. Et c'est une église qui a transpiré pour Dieu, parfois dans des situations terribles. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passait dans les jeux, parfois. Parce que dans les jeux, parfois, c'est marrant de faire souffrir les gens. Et donc, on peut imaginer ce qui s'est passé à Rome, par exemple. Vu les mêmes choses passées en Éphèse, on peut très bien imaginer que les chrétiens ont dû vivre des choses très compliquées. Et puis, on arrive à ce verset 4 et 5. Ce sont des versets qu'on connaît bien. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Et c'est là où ça devient plus personnel. Parce que, vous savez, il y avait un temps dans ma vie chrétienne, où ce verset, c'était un reproche constant. Parce que je pensais que je ne pouvais pas aimer Dieu suffisamment. Parce que je n'avais jamais connu le petit, comment dire ça, le petit rush qu'on peut avoir quand on rencontre Dieu pour la première fois. Il y a quelques personnes qui, au moment où ils rencontrent Dieu, c'est comme une explosion de « Oh, Dieu, j'ai découvert !» Et ce n'était pas le cas pour moi. Et j'imagine que je suis pas la seule. On vit les choses différemment. Et donc, parce que je ne connaissais pas cet amour du début, comme j'imaginais au moins dans ma tête, en fait, pour être honnête, je ne suis même pas sûre que j'aimais Dieu au début. Je savais que Dieu était important, même essentiel. Donc, ce n'était pas une question de l'importance de Dieu, mais en termes de ce que je vivais, honnêtement, je ne pense pas que c'était l'amour. C'était plutôt le fait que je savais que c'était important. Et c'était quelque chose qui m'avait pris. Mais le problème aussi, c'était que j'étais... C'était un avantage dans beaucoup de points de vue, mais j'étais très, très jeune quand j'ai rencontré Dieu pour la première fois. Et en fait, Jésus, il est devenu mon Seigneur bien avant... Même que j'ai un vocabulaire de l'amour. Donc, c'était quelque chose, j'ai grandi dedans. Alors, c'était 100% sincère. J'étais 100% engagée. Mais je n'étais pas engagée dans une démarche d'amour, si vous me comprenez. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Oui. Est-ce que ça parle à quelques personnes? Oui, je vois quelques têtes qui font ça. Et il faut savoir, nous sommes tous très différents. Et notre façon de ressentir notre relation avec Dieu, ça peut être très variable en fonction de notre âge, de nos expériences, de notre tempérament même. On ne vit pas tous les mêmes choses de la même manière. Et j'avais un problème avec cette idée qui me semblait un peu romantique de premier amour. Parce que bon, premier amour, quand on a vu son premier amour, on sait un peu ce que c'est. Donc je me disais, bon, je ne l'ai pas, donc il faut que je le crée. Je dois créer ce sentiment de premier amour. Et donc, on cherche les repères, on cherche, bon, comment est-ce que je vais faire pour créer ce premier amour qu'il faut avoir? Au début de ma relation avec Paul, mon mari, pas l'apôtre, d'accord, avec Paul, quand le téléphone sonnait, tu ne savais pas qui t'appelait. Parce qu'on était au Moyen-Âge, là. Donc, il n'y avait pas tout ce qui est identification. Donc, ça sonnait et c'était l'inconnu. Et au début de notre relation, tu sais, ça sonne et tu as le cœur qui bat un peu plus vite. Est-ce lui? Ou est-ce que c'est ma mère? Ou est-ce que c'est le travail? Ou est-ce que... Mais on a le cœur qui fait un peu... Boum, 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 boum. Allô? Et puis tu entends la voix, oh, c'est bon, c'est lui. Et donc, logiquement, je me disais, ça devrait être ça que je ressens quand je vais à la réunion de prière. OK? Parce que ça, c'est premier amour. Donc, il faut que je vive ça. Il faut que, quand je suis dans la louange, si mon cœur n'est pas en train de battre comme ça, je ne suis pas en train de vivre mon amour pour Dieu. C'est vide, il n'y a rien qui se passe. Et le problème, c'est que je voulais obéir à Dieu. Et je savais qu'il fallait que j'aie ce premier amour. Donc, je dis, bon, je vais le faire. Je vais créer ce qu'il faut. Et forcément, quand tu te mets dans ce genre de situation comme ça, forcément, tu vas échouer. Parce que tu ne peux pas inventer des sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose que tu ressens, justement. Donc, tu ne peux pas inventer ça. Et finalement, j'ai arrêté d'espérer que j'allais aimer Dieu suffisamment parce que j'arrivais pas. Je n'arrivais pas à vivre ce que je pensais que je devais vivre. Je devrais le mettre comme ça. Et je dis, il faut que je me contente avec ce que j'ai, même si c'est un peu deuxième classe. Et ce verset qui dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Le problème pour moi, c'est que pour moi, je n'étais tombée de nulle part, parce que je n'avais jamais été assez haute dans mon amour pour Dieu. Donc tu dis pas, à quoi je dois espérer si j'ai jamais connu ça. Et c'est parfois, on tricote nos pensées dans des nœuds invraisemblables, parce qu'on a, voilà, on a pris les choses d'un mauvais perspective. Et le diable, il aime bien profiter de ces choses-là pour nous décourager. Mais heureusement, Dieu, il a encore fait grâce, pas à Éphèse cette fois, mais à moi. Et il m'a amené encore à ce passage-là. Il y a un jour où je lis. Et tout d'un coup, je me rends compte que pendant tout ce temps, en fait, je n'ai pas fait attention comme il fallait à ce qui est vraiment écrit. Parce que ce qui est écrit, on ne lit nulle part, revient à tes premiers sentiments. C'est revient à ta conduite première. Reviens à ce que tu faisais au début. Alors, c'est tellement évident quand tu lis le passage, mais quand tu es déjà bien parti dans une direction qui n'est pas la bonne, c'était vraiment un moment frein à main pour moi. C'est, oh, OK, réorientation exigée. Et donc, j'ai commencé à chercher, parce que qu'est-ce que ça voulait vraiment dire pour moi, pas pour les Éphésiens, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit, ce que tu faisais au début de notre relation, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit, ce que tu faisais, ça comptait tellement pour moi, c'était comme si c'était une déclaration d'amour. Et donc, quand on... Pardon. Et en fait... Quand on voit ce que les Éphésiens faisaient, comme je disais, on a déjà entendu parler de ça assez récemment. On a les Éphésiens qui ont vécu des moments forts. Dieu a validé le message de Paul de manière assez impressionnante. On voit, il y a les guérisons, il y a les signes, les prodiges. Il y a aussi un incident qui montre ce qui se passe si on ne prend pas les enjeux spirituels au sérieux. Là, on trouve tout ça en Actes 19. On ne va pas le lire, mais je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas fait récemment. Mais nous allons lire la suite. Donc, on est en Actes 19, 18, 19. Et le verset 18 dit, « Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. » Et alors, pensez à ce que j'ai dit par rapport à la ville d'Éphèse. Pensez à ce que les gens avaient à confesser, à avouer. On peut imaginer que la liste des aveux, c'était longue et costaud, parce que c'était un endroit pourri. C'était vraiment un endroit pourri. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportaient le livre de sorcellerie. Les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Alors, je veux simplement souligner trois points qui me semblent importants. Et si ça me semble important, c'est parce que Jésus les a pris comme une démonstration et une déclaration d'amour. La première chose, c'est la confession. La confession. Dans l'Église protestante, on n'aime pas trop parler de la confession. Parce qu'on se dit, ouh, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire de confesser. On n'a pas besoin de mettre un cadre autour comme on peut voir ailleurs, mais la confession, c'est nécessaire. Il venait avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles il s'était livré. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent beaucoup de confesser, de dire les choses. En Proverbe 28, verset 13, on lit: Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je veux le relire. Qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En Jacques 6, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. En Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, dans ce mot reconnaître, il y a l'idée de le faire devant quelqu'un. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alexis a dit pendant la Sainte Cène, il dit, il y a les personnes qui ont le poids de la condamnation. Okay? Ces versets sont pour vous. Ces versets sont pour vous. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, vous allez savoir tout sur moi maintenant. Je me suis trouvée dans une situation où je devais confesser quelque chose. C'était quelque chose, j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Je m'étais déjà engagée à ne plus le faire. Mais je n'avais toujours pas la paix. Et en fait, ce que j'avais menti à Paul par rapport à quelque chose. Et tout le monde fait... Oui, tu sais, on est humain. On fait des choses qu'il ne faut pas, parfois. Et donc, je savais qu'il manquait une étape. Je savais qu'il manquait une étape. Et ça m'a rongé pendant 24 heures. Je n'ai pas bien dormi. Et le problème n'était pas de savoir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, est-ce qu'il faut que je demande pardon à Dieu ou pas. Ça, c'était pas le... c'était très clair. Presque tout de suite, c'était clair. Je pense que c'est souvent le cas. On fait quelque chose et puis tout de suite, on sait que c'est pas bien. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que tu confesses. Ah non. Non, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà demandé pardon. Donc... Voilà, je suis déjà pardonnée, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais je savais ce que je devais faire. Et donc, dimanche matin, parce que c'était un samedi, dimanche matin passe pendant tout le culte. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Dimanche après-midi, Paul, il est tranquillement dans le canapé en train de commencer sa sieste. Et je dis, Paul, il faut qu'on se parle. Alors, en général, quand une femme dit à son mari... Faut qu'on se parle. Normalement, c'est parce que le mari pense qu'il a fait quelque chose et en fait, c'était pas du tout ça. Mais il fallait voir sa tête. C'était oh oh, je pensais que j'allais avoir un dimanche après-midi très calme, très sympa. Et j'ai dit j'ai besoin de confesser quelque chose. Et vous savez quoi? La confession, c'est difficile. On est d'accord. C'est pas quelque chose qui est facile. Elle exige de l'humilité. Il faut donner un bon coup de pied à votre orgueil pour le faire. La confession exige que notre crainte de Dieu soit plus forte que notre crainte de ce que les autres vont penser. Mais Jésus, il aime l'humilité. On a parlé d'être élevé. La Bible nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il soulève les humbles. Okay? L'humilité, c'est important. Et quand tu montres à Dieu que son avis compte plus que l'avis des autres, Jésus prend cela comme signe d'amour. C'est ce qu'il a vu chez les Éphésiens au début. C'est un signe d'amour. Allez, tout ce que j'ai fait, c'était horrible ce que j'ai fait. J'ai pratiqué la... je ne suis pas en train de confesser ça. J'ai pratiqué la magie, j'ai fait tout ça. Et Jésus dit, mais c'est bien, tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as confessé, tu le délaisses. C'est pas la peine de confesser si tu n'as pas l'intention de délaisser. Alors on est d'accord, parfois c'est difficile. Parfois il faut confesser plusieurs fois. Parfois on a besoin d'un coup de main pour avancer. Surtout si quelque chose est bien ancré en nous. Mais confession avec l'intention de délaisser le péché est très, très puissant. C'est quelque chose de très puissant. Et quand tu confesses, plusieurs choses se passent. Déjà, tu trouves le pardon. Même si tu sais dans ta tête que Dieu t'a pardonné, quand tu confesses à quelqu'un qui peut affirmer avec toi que tu es pardonné, tu retrouves de la paix. Et ce n'est pas parce que tu n'étais pas déjà pardonné, mais c'est maintenant, c'est à la lumière. Ce n'est plus secret, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé pour moi comme ça, mais je l'ai dit, voilà, lumière fait son travail. OK? Et tu trouveras aussi le soutien du frère ou de la sœur avec qui tu l'as partagé. Vous savez, on peut tous entendre des confessions. Ce n'est pas que les deux personnes ici. C'est pas juste Alex et Chanel qui vont entendre vos confessions. On peut aller vers Alex et Chanel, mais c'est quelque chose qui se passe dans la communauté. Et on cherche un soutien. Et ce qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est le jugement, dans ce cas-là. Et je me demande, quand Jésus met le doigt dessus dans cette lettre aux Éphésiens, je me demande si, pour les Éphésiens, dans le désir d'éviter les dérives dans l'Église, le discernement qu'ils avaient ne s'est pas transformé en jugement. Au lieu de discerner ce qui est bon et mauvais, ils ont commencé à juger. Parce qu'ils savaient ce qui était mal et ce qui était bon. Jésus le dit. Mais c'est ce que tu fais avec ces informations qui peut être important. Et peut-être ils ont manqué d'humilité pour connaître leur propre faute et pouvoir justement confesser comme ils avaient fait au début. On ne sait pas. Ça, c'est mes imaginations là-dessus. Mais on peut tirer des conclusions à partir de ce qu'on voit. Donc, il y a la confession. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est le geste radical. Le geste radical. On vit dans une société qui dit toutes choses en modération. Oui, vous êtes assez d'accord avec moi? Oui. Un peu de ça, c'est bien, mais pas trop. Il ne faut pas être trop extrême. Faut pas... Alors, moi, je vous appelle au geste radical. D'accord? Jésus, il prêchait, il vivait l'amour envers les gens, mais il ne supportait pas du tout le péché. Du tout. À tel point qu'il était même très radical dans les images qu'il utilisait pour parler du péché. En Marc 9, 43, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ta main cause ta chute, coupe-la. Mince, j'ai menti à Paul. Qu'est-ce que je dois faire? Couper la langue? Vous savez, il y a les cultures où ça se passe. Alors, on n'est pas là, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une image qu'il utilise pour dire, vous ne pouvez pas tolérer le péché. Il n'y a rien de bon dans le péché. Et il y a des risques. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Alors ça, c'est une image, ce n'est pas le petit Jésus doux qui dit ça. Ça, c'est Jésus qui ne tolère pas le péché. Et il est très cash là-dessus. Il n'a pas essayé de ménager, de c'est quoi l'expression? Ménager ces mots-là? Ménager ces mots. Il est très clair. Et on peut imaginer que dans ce que les Éphésiens ont fait, ils avaient entendu l'enseignement que Jésus avait déjà donné, qui dit, si vous m'aimez, vous allez suivre mes commandements. Ça, c'est comment on sait si on aime Dieu Est-ce que vous faites ce qu'il dit? Parce que Dieu cherche ce genre de déclaration d'amour. L'obéissance à Dieu, c'est une déclaration d'amour. Parfois, on essaie de séparer les deux. L'obéissance, c'est la partie dure, et l'amour, c'est la partie tout beau, tout doux. Non, on ne peut pas les séparer. Les deux choses sont fortement liées. Et les Éphésiens, au début, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Pour Jésus, le péché est intolérable, donc pour nous, il faut que le péché soit intolérable. Il faut qu'on ne le supporte pas. Il ne l'approchait pas avec douceur et modération. On entend personne qui disait, bon, d'accord, je vais limiter ma pratique de la magie à une fois par mois. Parce que toute chose en modération. Ça c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, je coupe avec ça, je brûle tout ce que j'ai qui a un rapport avec ça. Geste radical. Et Jésus le voit, il le voyait au début, il dit, ça, c'est une démonstration d'amour. Ça, c'est l'amour du début. Quand on n'a pas peur des gestes radicaux pour couper avec le péché. Et dans mon état de tricoter des nœuds dans ma tête, ça fait tilt. Parce que tout d'un coup, je me souviens de quelque chose qui s'est passé quand j'avais 15 ans. Il y avait un album que j'aimais beaucoup écouter. C'était très tendance à l'époque. Et il y avait un album avec qui j'aimais beaucoup chanter. Je mettais la musique, j'étais dans ma chambre, voilà, je prenais la brosse à cheveux pour faire mon petit micro, comme tout le monde, j'espère, fait à 15 ans, et ce n'est pas que moi. Et sur cet album, il y avait un chant à chaque fois que ça passait, j'étais mal à l'aise. J'aurais eu du mal à mettre le doigt sur ce qui me rendait mal à l'aise, mais il y avait quelque chose dans ce chant. Et parce que forcément, je chantais avec. Et le jour vient, et je sais que le Saint-Esprit est en train de me dire, il ne faut pas que tu te laisses imprégner par le contenu de ce chant. Et j'aimais beaucoup cet album. J'aimais beaucoup cet album. Et vous savez, à l'époque, parce qu'on est encore au Moyen-Âge, là, soit si vous aviez de la musique, il n'y avait pas de streaming, c'était soit du vinyle, soit ça. OK? Alors, je sais que la moitié des personnes ici ne vont pas savoir ce que c'est. Demandez à vos parents, ils vont savoir. Et donc j'avais cette cassette. Et j'ai dit, OK, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma cassette et je l'ai déroulée. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça, ce n'est pas la même cassette, forcément. Et ça, c'est 1h30, donc. Mais vous avez compris, d'accord? J'ai vidé le contenu et une fois vidé, j'ai tiré comme ça. Pour que ça soit cassé, parce que je ne voulais pas avoir la possibilité de prendre un crayon, comme on disait dans le passé, et de rebobiner. C'était pas censé. Et donc j'avais fait ça. Et je ne le savais pas à l'époque, mais ça, c'était mon petit feu d'Éphèse. C'était le choix d'entendre ce que le Saint-Esprit disait, et non seulement de dire... Oui, c'est pas bien. Il ne faut pas que je chante avec ça. C'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ne plus avoir la possibilité de le faire? C'est qu'est-ce que je peux faire? Quel acte radical? Et ce que je ne savais pas à l'époque, quand j'avais ces soucis de est-ce que j'aime Dieu assez, Dieu prenait ça justement comme une démonstration d'amour. C'est ça que Dieu cherchait. Il ne cherchait pas que j'ai le cœur qui boum, 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 boum. C'est est-ce que tu vas faire ce que je te dis? Est-ce que tu vas le faire? Et donc, il y avait ce pauvre cassette qui se trouvait en miettes. Ce qui m'amène au troisième point, et ça c'est le sacrifice. Parce qu'on lit dans le verset 19 que ce qu'ils ont brûlé dans ce feu d'Éphèse, ça coûtait 50 000 pièces d'argent. Alors, vous savez ce que ça vaut aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une idée? Cette somme correspond à 150 années de travail pour un ouvrier. 150 années. Déjà, imaginez ce que vous pourriez gagner dans 150 années. Et ça, c'est la valeur de ce qui avait été brûlé. Et je me disais, parce que je commençais à faire des calculs, Éphèse avait une population à peu près, on ne sait pas exactement, mais autour de 130 000 personnes. Je me dis, même si c'est 10 % de la ville qui s'est convertie, ça veut dire que pour chacun de ces 13 000 personnes, en fait, ils ont sacrifié 4 journées de travail. Et on ne sait pas si c'était 10 %, peut-être c'était 2 %. Dans ce cas-là, ce qu'ils ont sacrifié, c'était beaucoup plus. Et donc, il faut dire qu'être radical avec le péché, parfois, ça coûte. Alors, ça peut coûter en argent, mais ça peut coûter en beaucoup d'autres choses aussi. Sur l'album que j'avais détruit, il y avait 9 autres chants que j'écoutais plus. Alors, ce n'est pas la même chose qu'une année de travail. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément mal en soi, que j'ai dû laisser de côté à cause de la chose qui me posait problème. Et le sacrifice financier de mon petit feu, de cassette, aujourd'hui, bon, ça semble un peu ridicule, mais à l'époque, j'ai gagné 8 livres par jour. Quand j'avais un petit boulot le samedi dans une maison de presse, et j'ai gagné 8 livres par jour. Un album coûtait 11 livres. Donc, c'était plus d'une semaine de revenus pour moi. Je vous assure, à 15 ans, ça fait mal. Parce que tu as plein de choses que tu veux faire avec ta semaine de. Qui a plus une semaine et demie presque, qui a été payée. Et donc, il n'y avait pas seulement le fait de détruire quelque chose dans l'obéissance, mais c'est aussi le fait que tu te rends compte de ce que ça peut te coûter. Et ça aussi, même si je n'avais pas mis les mots dessus, ça, Jésus a vécu ça comme, on parle d'un sacrifice d'amour, c'est l'amour sacrificiel à ce moment-là. C'est je donne. Pour être dans l'obéissance, j'accepte que ça va coûter quelque chose. Et Seigneur, c'est l'amour. C'est une déclaration, c'est une démonstration d'amour envers toi. Et donc, dans cette lettre vers les Éphésiens, ce que Jésus cherche, et c'est ce qui m'a posé longtemps problème dans ce passage, il ne cherche pas une régression vers un amour peu développé. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire quand il parle de premier amour. Il ne parle pas de nous aimer comme on était au début de notre connaissance de lui. Au début de ma relation avec Paul, si je savais qu'il venait manger à la maison, je passais un temps fou pour décider quoi faire à manger. Parce que forcément, quand tu aimes quelqu'un, tu veux faire un petit truc qui va aimer manger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas parce que je m'en fiche de ses préférences. C'est parce qu'après 30 ans de mariage et plus, en fait, beaucoup plus instinctivement, je sais ce qu'il aime manger. Et je n'ai pas besoin de passer un temps fou pour ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est quelque chose qui, avec le temps, avec l'approfondissement de notre relation, en fait, je sais. Je sais que ce n'est même pas la peine d'acheter ça parce qu'il n'aime pas. Donc, il ne va pas le manger. Et ça, c'est quelque chose qui, avec notre relation de Dieu qui s'approfondit, en fait, on se trouve de moins en moins dans la position où il faut faire des petits feux. Parce que plus on sait de Dieu, plus on sait de Jésus, plus on connaît son caractère et ce qu'il veut, moins on se met en position où on est obligé de faire les feux. Mais ça veut dire que quand on se trouve dans une situation où il faut faire un feu, l'amour auquel Jésus nous appelle, ce n'est pas le grand événementiel de « Allez, on va faire un gros feu ». C'est non, c'est beaucoup de petits feux, et très régulièrement, pour qu'il n'y ait rien qui traîne à la maison, dans nos vies, qui va nous amener vers ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et donc ça vient avec l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Ça vient tout naturel. Tout naturel. Et c'est né de cette connaissance profonde du cœur de Dieu et de son caractère. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je veux simplement vous donner l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de confesser. Si vous avez quelque chose à dire, alors je ne vais pas vous donner le micro, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire, venez ici, dire à tout le monde ce que vous avez fait. Mais surtout suite à ce que Thierry a partagé, ce fait d'être en salle de réveil, tenu par certaines choses, et Dieu te met en salle de réanimation. Je ne sais pas qui c'était, mais je sais que pour toi, tu as quelque chose que tu dois confesser. Et peut-être aussi pour les personnes dont Alexis a parlé. Toujours sur le poids de condamnation, tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Tu sais que tu es pardonné, mais tu ne le vis pas. Le poids est toujours là. Je veux vous donner l'occasion de confesser, si vous voulez. Et Paul, si tu peux revenir, s'il te plaît. Et il y a quelques semaines, Wilfried, il nous a dit, examinez-vous. Examinez-vous. Et ce qu'on va faire, juste pour clôturer ce moment, on va fermer les yeux, je vais prier, et on va simplement demander à Dieu deux choses. Première chose, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois confesser? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois confesser? Un péché que je souhaite abandonner, délaisser. Pour l'instant, même si je l'ai déjà apporté devant Dieu, mais ça a été dans le secret un peu. Et j'ai besoin vraiment de me libérer de ce poids. Et la deuxième chose, c'est de demander au Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que je fasse un feu quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois renoncer? Très concrètement, peut-être un objet, peut-être un abonnement à quelque chose. Peut-être il y a les comptes Insta où il faut se désinscrire. Peut-être vous avez besoin de demander à un ami de mettre un contrôle parental sur votre ordinateur avec un mot de passe que vous ne connaissez pas pour vous empêcher clairement d'aller sur certains sites. Et je parle des choses très concrètes. Je ne suis pas dans une renonciation générale. Je crois que Dieu, pour certains d'entre nous ce matin, il y a un acte, il y a un geste radical. Peut-être que vous devez amener quelque chose à la déchetterie ou mettre ça dans la poubelle. Quand les poubelles passent, c'est fini. Vous ne l'avez plus dans votre maison. Donc, on va juste prendre 2 minutes pour laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Oh Seigneur.